Bonjour à tous et bienvenue dans Nipcraft, le podcast qui vous parlait de bière, de bouffe et de blabla en tout genre. C'est Warco Brienza qui vous parle. Warco Brienza qui, comme à l'accoutumée, est fort bien accompagné car j'ai Raoul Gendreau face à moi. Salut Raoul.
Salut Warco, comment vas-tu?
Ouais, ça va aux petits oignons, j'ai la tête comme ça aujourd'hui, donc je t'avoue qu'un podcast apéro, c'est un truc que je trouvais vraiment très sympathique à faire.
En plus, c'est l'heure, c'est passé 6h.
Ouais, c'est même un peu tard pour l'apéro, hein, donc mieux vaut tard que jamais. Et puis, c'est un petit peu l'émission de la rentrée, hein, même si on n'est pas en avance, hein, c'est une rentrée début septembre, hein, si on pense à la diffusion de ce podcast, mais quand même, donc ça fait un petit mois qu'on s'est pas vu, et puis après l'émission qu'on a faite, hein, sur la vente de bière craft en retail, eh ben, on avait trouvé assez sympa de pouvoir parler de la canette, ce format qu'on voit de plus en plus. J'ai même une petite citation à la fin de l'émission qui rappelle comme c'est tendance cette canette, et puis on va vous parler d'un tas de trucs, alors tous les avantages, quelques inconvénients de la canette, on aimerait bien pouvoir faire une comparaison aussi entre la bouteille et la canette. Il y a différents types de canettes, différents types de bouteilles, hein, si on pense au format. Mais avant toute chose...
Eh ben, apéro.
Bah voilà, je savais quand même faire... Non, communauté. Ah non.
Communauté, avant d'ouvrir la bière.
Mais oui.
Mais on n'a jamais fait comme ça.
Mais j'adore. Oh. Et tu sais quoi? Vous le voyez pas parce qu'on n'a pas la caméra, mais on dirait un enfant. C'est pas un
le
mensonge.
Le doigt sur la gâchette.
Quoi. Il a tellement envie de continuer avec son jeu que du coup, bah, il force un petit peu la vérité et il a raison. Alors, je vais me dépêcher, Raoul. On fait comme ça?
Vas-y, mais on doit tenir 50 minutes quand même. Hein.
Bon, alors, le premier mot, c'est pour dire bravo. Pourquoi? Parce que bah, les émissions... dont la dernière en particulier, elle marche de mieux en mieux. La dernière a super bien marché. On a reçu plein de compliments, dont une mention spéciale à John Robert Nicou, hein, qui a pris une photo de la surette, quoi, qu'il a achetée suite à l'écoute de l'épisode. On a eu du Hermano qui nous a dit bravo. On en a eu d'autres encore, plus sur Twitter que sur Instagram. Donc, il va falloir que je réactive un petit peu Instagram. Mais big up à toi, John. J'ai vraiment bien apprécié la photo. Et puis, bah, continuez à nous faire vos feedbacks. Aussi les critiques, voilà, quand c'est moins bien, n'hésitez pas à nous le dire, parce que nous, c'est comme ça qu'on s'améliore, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose, chef ?
Non, c'était très bien comme t'as fait ça.
Hein ?
Ouais,
hein ?
On a vraiment l'impression qu'on est vraiment parfait, parce qu'il n'y a que des compliments, donc c'est chouette. Alors, continuez comme ça, continuons comme ça.
Ça, c'est le message de Raoul pour vous dire, les gars, soyez honnêtes, quoi, n'hésitez pas. Et puis, parce qu'on va parler de la question, est-ce qu'on est plutôt bouteille ou plutôt canette ? Je terminerai avec ça, hein, donc le pchit va pas tarder.
Ah,
en fait, on aimerait bien vous poser la question à vous aussi. Et la petite idée que j'ai soumise à Raoul, il a validé, c'est que je vous pose la question. Alors moi, ma petite idée, c'est de faire un sondage. Est-ce que je vais utiliser SurveyMonkey ou un autre outil ? Ce que je trouvais sympa, c'est de vous poser 2-3 questions sur comment est-ce que vous buvez de la bière, mais principalement, est-ce que vous êtes plutôt bouteille ou canette ? Et je vais même essayer de vous poser 2 packs, de tirer au sort, en fait, 2 gagnants. Un qui préférera, ou une, hein, qui préférera boire en bouteille, l'autre en canette. Donc, participez, soyez nombreux, on reparlera, en fait, de vos réponses lors du prochain épisode.
Et n'hésitez pas à partager le sondage aussi auprès de vos amis buveurs de bière.
Et buveuse de bière.
Buveuse de bière, pardon.
Allez, je crois que maintenant, on va pouvoir parler du conciliabule. Un conciliabule qui va aborder la pépite en canette 50 centilitres, et puis plein d'avantages. Le greenwashing également, qui est généré par la canette, parce que bah on entend souvent que c'est génial, que c'est recyclable, que c'est plus léger. Alors tout ça est vrai, mais il y a aussi des autres aspects. Donc allez, on écoute les brasseurs, et puis bah nous, on décapsule.
On y va.
Un grand homme a dit un jour « Yes, we can », donc moi je suis pour la canette.
Ah, trop bien. Vas-y, Kouros, dis-nous pourquoi est-ce que tu aimes la canette et dis-nous aussi qu'est-ce que tu bois, parce que ce Ferreur, tu as une bière en canette.
Tout à fait, je me suis ouvert une pépite des collègues de Dr. Gabs, en canette de 0,5 sortie récemment, hein, cette année, le nouveau format. Ça a demandé de prendre parti, donc il va falloir choisir un parti. Maintenant, il y a des raisons réelles et pour moi, je pense qu'il y a plein d'avantages à la canette et des avantages pour le consommateur comme pour le producteur. Alors, si tu vas penser aux questions de production, bah ça prend moins de place, c'est plus léger, t'en mets plus dans tes stocks. Moi, je trouve esthétiquement, c'est quelque chose de très joli. Il y a une plus grande surface de travail en termes visuels.
Kouros, moi, c'est aussi dans mon frigo que j'en mets plein, des canettes.
Refroidit plus vite aussi. Donc, si tu te l'amènes au bordule, c'est clairement plus simple à maintenir frais ou à refroidir. Vu que la bière, hein, de par le houblon et de par la levure, qui est évidemment encore vivante dans les bières craft, bah, tout ça, c'est photosensible. Donc, je pense qu'il y a une meilleure protection aux UV. Il y a des arguments qui vont dire que la canette est plus hermétique. C'est pas forcément vrai en termes de prise d'oxygène. Par contre, c'est clairement plus opaque. Et je pense donc pour une conservation générale de ton produit, il y a quand même beaucoup d'avantages. Et puis en effet, tu peux en mettre plus dans ton sac à dos, quoi.
Bon, ben, on a compris ce parti pris. Et puis, alors moi, je suis tout à fait d'accord hein, sur le fait qu'on gagne de la place et du poids. Je peux vous dire que quand on est avec des potes puis qu'on aime bien la bière, que c'est l'été et que vous êtes en vélo, bah, vous avez beaucoup plus de chances de vous trimballer 6 à 8 canettes dans votre sac à dos plutôt que 6 à 8 bouteilles. Tu marques un point pour Os.
Yes.
Bravo.
Qui c'est qui a envie d'enchaîner, quoi? Alors, soit un pour la bouteille, soit un pour la canette, on achète.
Moi, je veux bien continuer parce que Kouros, il a un peu tout dit sur l'aspect technique, etc. Je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Moi, j'aime bien la canette aussi. J'aime bien le format 44, en fait. Je trouve qu'il est, joli aussi esthétiquement par rapport à la surface d'habillage qu'on peut mettre dessus. Et puis, moi, j'aime bien les canettes pour... en fait, ça va. J'ai l'impression que ça va un peu avec certains styles de bière. Parce qu'il y a des bières que je ne mettrais pas en bouteille. Je sais qu'aux US, ils ont tendance à mettre absolument tout en canette. Enfin, des Imperial Stout, même barriquées, etc. Ils font ça. Même des Sour et compagnie. Enfin, moi, j'ai, de toute façon, la bière, je la mets dans un verre. Donc, je bois pas, ni à la canette, ni à la bouteille. Donc, au bout du compte, ça ne change pas grand-chose dans la consommation. Mais je trouve qu'il y a des produits... Je ne vais pas dire plus classieux, mais qui méritent quelque part la bouteille. Quoi. Mmh. Par exemple, si je prends un exemple des gens qui sont là, bah moi, de la Saint-Bonchien, je la boirais pas en canette, par exemple. Bah, j'ai vu des hostesses, des gars qui font des canettes avec des machins, des sours en barrique, et puis ça ne me conviendrait pas.
Et puis toi, c'est une canette que tu es en train de boire en ce moment?
Alors moi, je bois exactement comme Kouros, je bois la pépite de Dr. Gabs, qui est justement une 0,5. Alors pour moi, c'est un peu trop allongé. Mais bon, je fais des histoires. Hein. Mmh.
Non, on appelle joli pale ale, des notes de caramel, des notes d'agrumes, une amertume qui est quand même assez soutenue, qui tire en longueur. Mais bon, écoute, ça se laisse boire, c'est frais, estival, ça passe bien.
Si on parlait d'une fille, j'aurais l'impression que vous ne parlez pas de la même meuf.
Et bah, si tu lis ce qui est marqué sur la canette, c'est marqué sur la paille, dans le gabnostic. Et je trouve que ça résume assez bien la bière, parce qu'elle est effectivement l'amertume un petit peu, pour moi, ça, c'est un peu trop. Et ce qui reste en bouche, c'est quelque chose de très herbacé. J'aurais attendu un peu plus d'aromatique.
Un peu trop pour une pale ale, tu dis?
Moi, ça, c'est des goûts et des couleurs. Hein. Moi, l'amertume, ça m'intéresse de moins en moins.
Et le format 50 centilitres, pour les bons romans que vous êtes, hein, parce qu'on sait que les alémaniques, eux, ils boivent entre 1 demi-litre et 1 litre au bas mot. Vous en pensez quoi? C'est trop? C'est trop peu? Tu mentionnais le 44, le format 44, toi, David. Donc, du coup, 50, c'est un chouïa trop?
Je pense que c'est plutôt une question de... Enfin, la contenance, finalement, après, c'est la vitesse à laquelle on la boit pour pas qu'elle chauffe. Ça. Moi, le format 44, j'aime bien pour des questions purement esthétiques.
Bon, on va se tourner du côté de l'Italie maintenant. Et on demande à Jérôme si lui, il est plutôt canette ou plutôt bouteille.
Bon, alors moi je suis assez d'accord avec ce que certains ont dit aujourd'hui, dans le sens où j'aime bien ce qu'a dit David, certaines bières passent bien en canette. Par contre, moi j'ai un petit peu peur de la canette en greenwashing, parce que vous savez que l'aluminium est extrait d'un minerai qui s'appelle la bauxite, probablement en Centrafrique ou je ne sais pas où. Ça utilise beaucoup de métaux lourds, beaucoup de flotte. Ensuite, on fait des pleins d'aluminium qu'on va fondre quelque part. On en fait des canettes, puis après les canettes, elles vont dans les brasseries, puis après on les soutire, puis on les diffuse encore, et puis après éventuellement on les recycle, puis on doit les repasser à 1200 degrés pour les faire fondre. C'est pas une bonne solution environnementale non plus. Bon, vous allez me dire, dès qu'on fait une industrie, quelle qu'elle soit, même si on fait de la bonne bière artisanale, c'est quand même pas très très umweltfreundlich, les chiens. Mm-hmm. Donc, moi j'ai un petit peu de peine avec ça, puis je me souviens quand on a fait la nouvelle usine... qu'on a fait le projet pour ça, on a réfléchi, va-t-on se diriger vers la canette ou pas. Puis moi, je dis, on a toujours été des gros losers avec nos verres consignés, on va continuer avec ça, même si c'est emmerdant.
Allez, à ta santé, à vous. Nom d'un chien, une bière fraîche, qu'est-ce que ça fait du bien.
C'est parfait.
Alors, Jérôme, qui nous parle de greenwashing, c'est une chose, mais nous, on la boit comment, cette bière? Toi, t'es plutôt bouteille ou t'es plutôt canette?
Alors, traditionnellement, j'étais plutôt bouteille. Pour moi, la canette, ça me faisait plutôt penser à ces bières au litre industrielles qu'on boit sur les chantiers. J'ai rien contre les chantiers. Hein.
Superbock.
Ouais, par exemple, ou Car, ou Hein, ou par là. Et puis finalement, je me suis dit que au niveau conditionnement, c'était pas mal. On en avait parlé dans une précédente émission. Parce qu'il n'y a pas la lumière qui pénètre dans la bière, en fait. Et j'ai dû revoir un petit peu mon avis sur les canettes. Et c'est vrai que j'apprécie souvent de boire quelques canettes. D'autant plus qu'on trouve de plus en plus de bières craft artisanales en canettes maintenant.
Ouais, écoutez, en ce qui me concerne, moi j'étais un anti-canette. En tout cas jusqu'à fin 2019, si c'est pas jusqu'à... Non, c'était fin 2019 en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai travaillé pour la brasserie La Nébuleuse, il y a un projet où on a déclenché une action marketing dans laquelle il y avait une bière. C'était pour une compagnie d'aviation, la compagnie d'aviation nationale pour la Suisse, et puis qui a débouché sur un concours qui lui-même a vu la bière des romans votée par le plus grand nombre. Et en fait, cette bière, j'ai trouvé excellente. Et le fait est qu'elle n'était disponible qu'en canette. Je l'ai découverte en fait sur le tard. Hein. Moi, je l'ai vendue, mais je l'avais pas forcément goûtée. Puis quand ils l'ont placée en fait dans les avions, que je l'ai goûtée en fait à ce moment-là, j'ai dit non d'un chien, mais elle est bonne cette Binch. Et puis parce que je voulais reboire une bière que j'adorais, je l'ai commandée en canette parce qu'elle était disponible qu'en canette. Et c'est là que j'ai découvert que en fait je pouvais en mettre plus dans mon frigo, que je pouvais les empiler, qu'elles étaient fraîches beaucoup plus rapidement, que quand j'allais en vélo, au lieu de prendre deux bières, je pouvais en prendre quatre.
C'est moins lourd.
C'était moins lourd, ouais. Mais quand elles tapaient, ça me faisait moins peur qu'elles explosent comme ça, même si c'est un peu pénible à ouvrir après. Hein.
Ouais, donc, parce que pour casser une canette, je pense qu'il faut y aller hein, quand même.
Exactement.
La bouteille se casse plus facilement. Ouais.
Donc je suis grave, mais j'ai complètement changé mon fusil d'épaule, et puis maintenant, je suis le pro de la canette. J'ai l'impression que c'est comme si je ne voyais pas la canette et que maintenant, je vois. Donc je les trouve très jolies, pratiques, etc., etc.
Après, ça dépend aussi un peu... désolé, mais la bière qu'il y a dedans.
Alors ça, c'est évident, mais déjà, avant toute chose, toi, tu sais de quand ça date, la canette ?
Ouh, mais je crois que c'est vieux, non ?
Alors, c'est vieux.
C'est pas les Allemands qui ont inventé ça ?
J'hésitais, quoi. Parce qu'il y en a qui disent que c'est les Allemands qui ont vendu en premier, et la majorité des sources dit que c'est en Amérique que la première canette de bière a été produite et vendue. C'était dans les années 30. C'était la brasserie Gottfried Kruger Brewing Company. Donc, il y avait quand même un Allemand dans l'histoire, j'ai l'impression.
Ouais, Gottfried, je pense pas qu'il était tellement américain.
C'était pas suédois non plus,
Kruger,
vraisemblablement.
Mais c'était pas Freddy.
Ça me rappelle un autre Kruger, justement. Mais bon, je crois qu'il faut être, je sais pas s'il faut être vieux pour connaître Freddy Kruger, quoi.
Ouais,
je sais plus.
Quand même, ouais. On est vieux, nous, hein.
Ouais, mais tu sais, ils font maintenant plein de relaunchs. Donc, si ça se trouve, ça a été relancé, puis on a même
ils l'ont mis dans un dessin animé. Ouais.
Tu sais, le truc plus bizarre encore, puis ça, c'est Wikipédia qui nous le dit, c'est que jusque dans les années 70, 70, pour nos auditeurs français francophones, en fait, le mot canette, il désignait une bouteille en verre. Une bouteille en verre qui était munie d'un bouchon mécanique. Hein, vous les voyez, je pense que chacun dans son pays respectif a au moins un exemple de bière avec bouchon mécanique.
Les BSM.
Par exemple, en Suisse.
Par exemple, ouais.
Et puis, c'est ça qu'on appelait une canette jusque dans les années 70. Donc, imaginez, pendant 30 à 40 ans, on avait donc la can qui était lancée aux États-Unis, qui commençait à être vendue. Et puis, parallèlement à ça, on avait encore la canette qu'on appelait comme telle une bouteille avec bouchon mécanique. Jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment la boîte. On l'appelle même comme ça. La boîte qui est issue du mot can et qui représente une autre version de la canette. Donc c'est vieux d'un côté, mais ça a quand même moins de 100 ans, quoi. Puis un autre truc qui m'a surpris, c'est que, et ça j'ai pas pu vérifier, mais je vous le dis quand même, il y aura la source, il semblerait que 75% de l'aluminium qui est utilisé aujourd'hui était fabriqué au 19e siècle, donc en 1800 et quelque chose. C'est tellement recyclable, la canette, qu'on reprend la canette usagée, on la refond, on la réutilise. Alors moi, et toi d'ailleurs Raoul, on s'est demandé, mais comment ils font pour dater en fait l'aluminium, quoi ? Et c'est une vraie bonne question, mais quand vous verrez le blog duquel j'ai tiré cette info, c'est quand même bien sérieux, il a mis des signets à son blog, il est bien détaillé, c'est un article de 12 minutes. Donc c'est un truc qui mériterait investigation, mais ce qu'on peut vous confirmer, c'est que l'aluminium est effectivement une des principales matières premières recyclées sur la planète. C'est vrai que le verre, il a un taux de recyclage qui est encore supérieur.
Alors en Suisse, on est un peu les champions du recyclage du verre, hein. C'est 90%,
bravo.
90%
ouais.
de verre recyclé.
Ouais.
Bon, faut dire que dans toutes les déchetteries, même à Corcelles-de-Jorat, on a une benne à verre, donc c'est facile de recycler les bouteilles en verre.
La moyenne que j'ai réussi à attraper sur Internet pour la canette, c'est 75%, 75%, donc c'est quand même bien recyclé, mais le verre est encore un petit peu au-dessus. Et le verre a l'avantage du verre consigné, c'est-à-dire celui qu'on ramène. Donc il y a celui qu'on recycle, où on est au-dessus de la canette, et il y a celui qu'on consigne, donc on paye en plus pour avoir la bouteille qu'on restitue, et à ce moment-là, on a un remboursement. Les Allemands appellent ça le Pfand. Ils ont carrément, officialisé ça. Hein. Ils ont
Il n'y a pas une obligation dans certains pays de consigner le verre, notamment en Belgique.
Alors moi, je la connais pour l'Allemagne, ouais. Mais ça m'étonnerait pas que d'autres pays nordiques ont également l'obligation, ouais.
Et par contre, on se posait la question aussi, c'est par rapport au l'environnement de consommation. On se demandait si le fait qu'on buvait des canettes plutôt dans un environnement extérieur, dans des festivals ou dans des fêtes privées ou à l'extérieur, ça pouvait influencer sur le moins bon taux de recyclage que le verre.
Mmh.
On a les bouteilles en verre, si on boit du vin, ça peut être soit au restaurant, soit à la maison. On a forcément une récupération de verre quelque part. Les canettes, c'est peut-être une consommation extérieure et on n'a pas forcément une poubelle à alu dans la rue quelque part pour mettre sa canette.
C'est clair.
Ça me fait penser aussi au PET. Parce que le PET est aussi bien recyclé. On a de plus en plus de containers de PET à l'extérieur, dans les manifestations et tout ça. Et ça me fait rebondir sur le fait que j'avais vu à l'époque, à la Braubevial, à la grande fête des brasseurs, à la grande foire des brasseurs, à Nuremberg, qu'ils avaient développé une bouteille en PET pour remplir de la bière. Pour remplir de bière. Donc voilà, tous les conditionnements sont possibles et imaginables. Ça a pas tellement percé la bouteille PET pour la bière. Ah, il faut que ça rentre un peu plus dans les mœurs à mon avis, mais c'est quand même pas un conditionnement qu'on associe facilement à notre boisson gazeuse préférée.
Moi, j'allais te dire, j'avais carrément jamais vu ça et pourtant Dieu sait que j'ai eu des occasions différentes. C'est, j'ai vraiment travaillé plein de catégories boissons, je ne l'ai pas vu en event ou à quelques... Franchement, je me rappelle même pas de l'exception.
Je suis pas sûr qu'en Suisse, il y ait des productions de bière en PET. Hein.
Ouais, mais tu sais ce que j'ai vu.
C'était en Allemagne, là, que j'avais vu, mais ouais, en Suisse, je suis pas sûr.
Ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu, et ça, c'était la dernière fois que j'ai vu dans un event massif, c'était au début des années 2000, c'était pour la Schwingfest, la fête fédérale de lutte. Donc ça, c'est un truc qui aura l'air complètement kitscho si on n'est pas suisse, mais il faut s'imaginer des types qui font une lutte qui ressemble au type gréco-romain, quoi, pour vous faire une idée.
Avec un mélange de sumo.
Voilà, et puis on se prend par la culotte, quoi, c'est des culottes spéciales, puis on se balance comme ça en l'air. Bah là, c'était la bouteille en verre 50 centilitres. Et je peux vous dire que ça tournait, quoi, la bière. C'était indécent. Je me rappelle plus combien de centaines d'hectolitres il y a eu en un week-end, mais c'était incroyable. Par contre, la bouteille pète, jamais. Je pense qu'il y a une question de mœurs, c'est-à-dire qu'il y a encore un petit blocage mental. Ouais. Moi, ça m'étonnerait pas que ça arrive tôt ou tard, parce qu'il faut faire de plus en plus gaffe à ces matières. Puis finalement, ça fait le job pour toutes les autres catégories, déjà. Donc, ça risque bien d'arriver. Tu sais, moi, ce que je me demandais, Raoul, c'est... Tu m'as dit que t'étais plutôt bouteille en verre. J'avoue que c'est aussi mon cas.
Au départ,
avant de changer de fusil d'épaule. Mais ce serait plutôt bouteille en verre perdu ou plutôt en verre consigné?
Alors pour moi, ça m'est un peu égal, en fait. Je fais partie d'une petite tranche de population qui achète sa bouteille, qui regarde pas forcément si c'est du verre consigné ou pas. De toute manière, je le recycle. Donc s'il retourne à la brasserie, c'est bien. S'il retourne directement à la benne qui est recyclée, de toute manière, ça fait le même effet. Je serais plutôt tendance à payer la consigne et aller recycler ma bouteille finalement, plutôt que d'aller ramener la bouteille dans le point de vente. Souvent on repasse pas forcément au même point de vente, je vais pas acheter toutes les semaines mes bouteilles dans le même magasin et puis ramener systématiquement, je change de brasserie, etc. Et en Suisse, il y a pas énormément non plus de brasseries qui consignent le verre, parce que c'est compliqué pour eux, surtout les petites brasseries, parce que ça veut dire qu'il faut laver les bouteilles, il faut facturer la consigne. Quand le client ramène les caisses, sur une caisse de 24, il y en a peut-être deux où il y a pas la consigne, donc on doit déduire ces 2 fois 30 centimes. C'est vite compliqué au niveau de logistique pour les petites brasseries. Donc, étant donné que le verre est recyclé, comme on a vu, à quasiment 90%, 90%, je pense que les brasseries artisanales préfèrent le verre perdu. C'est d'une part plus léger, parce que la constitution même de la bouteille en verre recyclé est faite de sorte à ce que le verre accepte de plus de choc que la bouteille...
C'est du verre plus robuste, chose qu'on sait pas.
Exactement. Donc, plus robuste, forcément plus lourd, plus de manutention, les palettes sont plus lourdes, les caisses sont plus lourdes, les véhicules sont plus lourds chargés, donc c'est quand même des contraintes assez importantes pour les brasseries craft. Donc c'est pour ça qu'on voit pas tellement de ces bouteilles consignées pour les petites brasseries. Donc les bouteilles consignées, finalement, c'est plutôt pour les bières d'une certaine taille quand même de brasserie. Finalement, moi je ramène pas les bouteilles et puis voilà, je perds les 30 centimes.
Ouais, moi je fais comme toi et j'appelle ça le coût complet. C'est-à-dire, je paye le vrai prix, hein, comme il y en a certains qui rajoutent pour le carbone un petit complément à leur billet d'avion, moi c'est pareil pour le voyage de ma bière. Je suis assez content de le faire, en plus. Tu sais, en parallèle, j'ai cliqué sur le lien, et c'est une étude qui a été publiée par la Confédération Suisse et qui compare les bilans écologiques de différents formats. Je te le commande juste en deux mots, histoire que tu captes. En fait, chaque boisson, lorsqu'elle est produite, elle génère des unités de charge écologique. Voilà, les UCE. Et puis ce que tu vois là en vert, c'est les unités de charge écologique, tu sais, qui sont comparées d'un format à l'autre. C'est-à-dire, le vert est un petit peu malheureux, mais plus il y a de charge écologique, et puis plus, en fait, c'est pas bon pour l'environnement. Et puis, ce que tu vois dans le classement, je pense que je mettrai également l'image dans les notes d'émission.
C'est pas mal, ouais.
Je mets, alors, celui, le meilleur format pour la bière, donc là, c'est vraiment spécifiquement sur des formats bière que ça a été évalué. C'est ce qui rend l'étude très intéressante. Il y a d'autres formats pour d'autres boissons qui sont étudiés plus bas. Le fût de 50 litres, donc c'est un gros fût, hein. Il y a aussi des fûts de 20 litres. C'est celui qui pète le score, hein. C'est celui qui est le plus écologique.
Ce qui est assez logique, parce que le contenant, il est unique et il est réutilisable à 100%. Parce ouais. que la brasserie va pas jeter des fûts de 50 litres.
Voilà. Tout à fait. Droit derrière. Et c'est à peu près le même impact, hein, quand on remarque. Enfin, quand on veut faire la comparaison, tu sais, avec ces fameuses UCE, c'est une bouteille, sauf erreur. On reprend ensuite, on renormalise ça au niveau d'une unité. C'est-à-dire, on prend le fût de 50 litres, mais le fût de 50 litres, ça fait X bière, par exemple, de 25 ou de 33 centilitres. Et ensuite, on a normalisé pour dire, ces 33 centilitres-là, quand on les compare, par exemple, à une bouteille, ou c'est peut-être 0,5, parce que c'est la bouteille de 0,5 litres qui est analysée. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a principalement des alémaniques, et les alémaniques, ils boivent des plus gros formats. Voilà, je referme ma parenthèse.
On est du côté allemand.
Voilà, donc voilà, une surpondération germanique, quoi. Même si c'est la version en français qu'on publiera, la bouteille en verre réutilisable, donc consignée, elle arrive droit derrière, assez proche en termes de bilan. La canette en aluminium 50 centilitres, hein, vous voyez, c'est toujours ces mêmes formats 50 qui sont repris, elle est en dessous de la bouteille en verre, en sachant que la bouteille en fer blanc...
Boîte en fer blanc.
Ah, boîte en fer blanc, merci.
Alors, donc, j'ai jamais canette, vu de... De ah, bière en boîte en fer blanc.
Mais c'est une boîte de conserve, en fait.
Une boîte de conserve. Bon. C'est du cassoulet.
Bon, voilà.
C'était pour le comparatif, à mon avis.
Ouais, ok. On va laisser celle-là là de côté. Pas de commentaires. Par contre, il y a la bouteille en verre à usage unique, qui, elle, en fait, est un rapport, moi, je dirais comme ça à l'œil, de 1 à 10 par rapport à la bouteille en verre réutilisable, et je dirais peut-être de 1 à 6 ou 7 par rapport à la canette en aluminium. Donc ça rigole pas, hein. Une bouteille en verre perdu, ça consomme clairement plus écologiquement parlant qu'une canette en aluminium. Puis ça, c'est sans compter qu'il y a des tas d'aspects encore, comme par exemple le transport, ou sur un volume égal, en fait on met deux fois plus de canettes, hein. Tu sais, cette palette Europalette, on met en général environ 1000 bouteilles sur une palette, hein, une palette complète qui est ensuite filmée. Les canettes, on en met environ 2000, quoi. Donc je parle bouteille 33 versus canette 33.
Elles s'empilent déjà. Et puis après, il y a une question de poids aussi. Effectivement, le poids étant que certains véhicules peuvent pas transporter plus que X tonnes, ça veut dire qu'on doit faire deux voyages pour transporter la même quantité de liquide au final. Hein.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis, en fait, les bénéfices, ils sont à plusieurs niveaux. Hein. Finalement, c'est la production d'aluminium versus verre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, je pense, au niveau du transport. Et là, on a effectivement l'avantage de pouvoir les empiler. C'est plus léger. Donc effectivement, ça consomme moins d'essence, par exemple. Mais là, on va dire sur des éléments qui sont peut-être significativement moins importants que le premier que j'ai posé. Et puis, ça, c'est pour l'aspect écologique, mais il y a des aspects de conservation où là, ça renvoie peut-être plus à des notions gustatives également. Mais la canette se conserve très bien. Pourquoi ? Parce que le contenu, il est à l'obscurité, hein, c'est complètement opaque, une canette. Et puis, l'avantage de l'opacité versus de l'empilage et versus tout ce qu'on a dit précédemment, ça fait qu'au final, on s'en sort avec un bon bilan écologique sur un packaging qui permet de maintenir sa bière, je dirais, proportionnellement de meilleure qualité parce que c'est opaque. Puis parce qu'elle est petite, on peut la encaser davantage dans un même endroit qui resterait au frais et dans l'obscurité. Tout en sachant que la bouteille, ça reste un bon format de stockage, ça reste un bon format pour la consommation, c'est-à-dire ces bouteilles qui sont sombres, je trouve que c'est pas complètement opaque, mais ça fait quand même une partie du job.
Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une question un peu logistique, même de production. C'est plus facile pour une petite brasserie, une brasserie craft, de remplir des bouteilles que des canettes. Elle vient ouverte, elle a une capsule, donc on capsule et la bouteille est prête. La canette, c'est un tout petit peu plus compliqué, quoique on peut même étiqueter des canettes. Donc il y a un certain nombre de canettes qui sont pré-imprimées, donc avec une sorte d'impression sur l'aluminium. Et puis on peut commander des canettes aussi vierges, blanches par exemple. Et puis il y a posé des étiquettes transparentes avec toutes les couleurs qu'on veut. Donc c'est plus un problème au niveau de vraiment l'étiquetage de l'étiquette, mais pour les remplir, c'est un tout petit peu plus compliqué, voilà.
Et puis cet étiquetage, alors je profite puisqu'on parlait de la canette pré-print, il y a également le sleeve Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces canettes super style qui vous plaisent, qui ont plein de belles couleurs, alors on va dire c'est principalement des canettes sleevées. Et puis quand les volumes sont assez conséquents, alors là vous pouvez même retrouver des canettes pré-print. Pour donner un exemple, ah bah on va voir la canette de Pépite.
Elle est imprimée.
Ouais, c'est du pré-print. Donc ça promet des jolis volumes, ça. Il faut savoir que les batchs minimum, je crois que c'est 100 000 canettes. Et encore, tu galères pour avoir des commandes à 100 000 canettes. Donc ouais, 50 000 litres vendus sur une petite région comme la Suisse romande en une année, et sur un format, ouais, il faut déjà les faire, hein, sachant que c'est une bière qui est locale. Alors, elle est nationale à présent, mais sauf erreur, ce format-là, il est disponible uniquement en Suisse romande et pas encore en Suisse alémanique. Donc ça vous donne une petite idée. Moi, je me souviens, quand j'avais demandé des offres, on pouvait facilement être sur des minimums à 250 000 ou 300 000 canettes.
Et après, il faut de la place aussi pour les stocker, hein.
Ouais.
Parce qu'il faut commander en une fois, donc ouais. Il faut un grand dépôt quand même.
Et puis les canettes, c'est hyper fragile quand c'est vide. Donc attention à savoir utiliser ces véhicules, tu sais, en entrepôt de manière correcte, parce que alors il y a un mauvais virage et vous virez genre 4000 canettes vides d'un coup.
Ça sent l'expérience, ça.
Expérience faite.
Mais ouais. Je pense que t'as jamais tourné une palette de bouteilles non plus.
C'est pas moi qui l'avais fait.
Voilà.
Ouais, que... genre, il y avait eu des fessées ce jour-là. Il y avait eu des fessées. Il y a un truc que je me demandais là, vu qu'on était en train de passer virer au côté gustatif, hein, en parlant de la conservation, c'est finalement comment boire au goulot. Et déjà, est-ce que tu bois au goulot, que ce soit en bouteille ou en canette?
Je suis en train de m'étouffer. C'est pas parce que la bière est pas bonne, mais non. Pour moi, je pense qu'une bière d'une certaine qualité doit se boire, doit se déguster dans un conditionnement approprié. Pour moi, de boire une bière en verre dans une bouteille, d'une bouteille en verre dans un verre ou d'une canette dans un verre, c'est vraiment une bonne chose pour la dégustation, parce que la première chose dans la dégustation qui est importante, c'est vraiment le nez. C'est-à-dire que c'est l'odeur qui va dégager cette bière. Ça peut être un nez fruité, ça peut être un nez houblonné, ça peut être un nez floral. Il y a plein d'arômes, de saveurs qu'on peut déjà percevoir avant même de goûter la bière.
Mais là-dessus, t'es d'accord qu'entre bouteille et canette, c'est deux formats qui sont pas idéaux, quoi, pour la partie olfactive.
Alors, si on les boit au goulot, non. C'est pour ça que moi, je privilégierais quand même de les ouvrir et de les déguster dans un verre. C'est quand même préférable. Après, la canette, c'est peut-être un peu plus pratique à boire au goulot que à verser dans un verre, parce que quand on sert, il y en a quand même un peu partout qui se met sur le goulot, ça coule un peu à côté. Donc la bouteille est plus pratique à servir dans un verre que la canette, ça je conçois complètement. Mais si vous voulez vraiment apprécier la bière à sa juste valeur et apprécier le travail du brasseur derrière, c'est vrai que dans un verre c'est quand même préférable.
Bon, moi j'ai toujours ce blocage, hein, de boire au goulot une canette, c'est-à-dire je le fais quand il faut, tu vois, quand t'es à l'extérieur, ben ma foi, t'as pas forcément le verre sous la main.
Puis t'essuies le dessus là.
Tu dis de la canette?
Ouais, avant.
Mais moi je te dis.
Prends un mouchoir, tu le caches dans ta poche et puis tu essuies le dessus avant de l'ouvrir. Ou...
Mais la vérité c'est que je ne bois pas au goulot d'une canette. Ah ouais, c'est l'histoire de la pisse de rat là.
Ouais, dans les dépôts.
Il y a des gens qui connaissent, d'autres pas. Moi c'est une légende qu'on m'a racontée. C'était quand j'étais petit avec les canettes de coca. Et du coup, bah moi dans mon quartier, on buvait pas trop les canettes de coca parce qu'on disait que dans les entrepôts, t'as les rats qui faisaient pipi dessus. Puis c'est un truc qui m'a toujours resté, mais je ne suis pas le seul en l'occurrence. C'est pas que les enfants de mon quartier.
Tu sais, je pense que nos parents à l'époque, ils étaient très imaginatifs pour nous prévenir de la consommation excessive de sucre.
Ouais, c'est le coup du père fouettard. Enfin, c'est le challenger de la petite souris qui vient poser 5 francs contre la dent, quoi. Mais ça, c'est la vérité, non? Non, c'est le Père Noël en fait.
C'est le Père Noël qui vient poser la souris.
Je me confonds.
Ah, yeah, je sais plus.
Yes, on en était où avec ces histoires?
Eh ben, on demandait comment la boire finalement, au goulot, en bouteille. Donc, n'hésitez pas à remplir le sondage. Ça nous intéresse effectivement de savoir si vous buvez plus facilement une canette au goulot ou une bouteille au goulot, ou pas du tout, ni l'un ni l'autre. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a un moment propice éventuellement de consommation dans la journée ou comme ça, où vous buvez plus facilement au goulot qu'en bouteille? La question, on pourrait la retourner aussi dans l'autre sens, de dire, finalement, le vin, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de boire une bouteille de vin au goulot? Alors certains, ils vont nous dire, bah ouais, forcément. Mais je pense que c'est une question de qualitatif du produit, au final. On aura plutôt tendance à boire une bière bon marché, de soif, dans une canette, qu'une bière artisanale. Maintenant, ça se mélange. Donc on voit que la Pépite, qui est une très bonne bière artisanale, se consomme et se vend aussi en canette. Donc il y a un petit peu un mélange des conditionnements. Et puis, il en faut pour tout le monde, quoi.
Ouais, c'est clair. Alors, tu sais quoi, je voulais conclure avec ma petite frustration, là, avant de passer aux inspirations. Il sait très bien, Raoul, ce que c'est ma frustration, c'est qu'il m'a posé une question et que je me sens tellement blaireau de pas pouvoir y répondre. Il m'a dit, mais quand on produit en canette, comment on ferme les canettes? Hein, parce que lui, bah, il a produit des bouteilles, alors il capsule la bouteille, puis après, bah, elle est prête à être packagée. Et puis la vérité, c'est que j'ai bossé pour une brasserie qui produisait en canettes, mais franchement, tu me poses une colle, quoi. Je vois bien les canettes qui arrivent, qui sont rassemblées dans les packs de 12, mais par contre, je ne me souviens pas, quoi. J'ai pas observé comment les canettes se ferment. Alors, il y a le pari qui est pris sur le fait qu'elles soient serties, comme ça, hein, donc le petit rond qu'il y a au-dessus.
Comme les boîtes de conserve.
Ouais. Bah, il est posé, et puis il est soudé, comme sur une boîte de conserve. Mais par contre, je vous fais une promesse. Il va falloir que je la tienne, du coup, hein, vu que je l'ai dit au micro.
On va mettre une démonstration, une vidéo d'une démonstration de mise en canette en lien sur l'émission.
Alors ça, je peux pas promettre, mais je vais appeler Kouros, le maître brasseur de la nébuleuse. Je vais lui dire, j'ai honte, j'en ai vendu plein, mais je me rappelle plus comment on les ferme. Donc la suite au prochain épisode.
Lève le bras gauche et tu dis, je le promets.
Non. Je promets.
Allez, nous on le promet qu'on va vous trouver une vidéo. Et si on peut pas trouver la vidéo, eh ben, qu'est-ce qu'on fera? Eh ben, on l'offre à nous-mêmes.
Bah ouais. Ah, j'avais cru, on offrira des bières.
Non, mais on offre des bières aussi, mais non, on l'offre à nous-mêmes, la vidéo.
Ouais.
Bon. On ira trouver une brasserie qui met en canette chez Dr. Gabs ou Nébuleuse, et puis on fera une vidéo.
On filmera.
Voilà, promis.
On filmera. Bon, bah, c'est cool. On a promis les deux, hein. Il n'y a pas que moi qui ai promis.
Voilà. Je suis partant aussi.
Bon, bah, non, les inspirations, j'avais envie de vous citer cet article blog. Il sera également posté dans les notes d'émission. Disponible sur nipcast.com/nipcraft. Mais si vous cherchez Nipcraft, vous trouvez maintenant. On est assez bien référencé. Alors, pourquoi les packagings de bière artisanale sont-ils devenus si cool? Et puis là, en fait, il y a toute une rétrospective, en fait, sur la bière. C'est un long article. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il fait une douzaine de minutes. Donc, il passe à travers plein de sujets différents. Mais bon, vu que c'est une agence qui fait du design, forcément, ils s'attardent un peu sur les packagings. Mais ils ont une belle plume. Donc, je vous invite simplement à découvrir cet article. Et puis, le blog, en général, qui est d'assez bonne facture. On termine avec la citation.
Alors, juste avant que tu fasses la citation,
vas-y.
Je voulais juste informer nos auditeurs que j'ai lu la citation avant pour éviter que je me prenne la honte, parce que il y a un blanc de 20 secondes entre le moment où tu finis ta citation puis où tu me demandes t'en penses quoi, Raoul. Donc là, je l'ai lu avant, donc la réponse ira beaucoup plus vite.
Mais tu sais, elle est un peu plus pragmatique, cette citation. Elle m'a plu. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi elle m'a plu. Donc, j'ouvre les guillemets. Les canettes de bière sont officiellement les nouvelles pochettes de disques. Et c'est Kania Magazine, qui est en fait un magazine, c'est un webzine spécialisé dans la bière craft, qui le mentionne. Et à tout dire, j'ai trouvé que ça m'a tellement renvoyé à un souvenir. Tu sais, moi, quand j'avais 20 ans, j'avais des potes qui mixaient, qui étaient DJ, et ils avaient encore des vinyles. Et c'est vrai qu'on avait toujours l'air super cool, parce que moi, je portais en fait le flat case, tu vois, de mes potes DJ. Et rien que ça, ça te faisait monter dans mon statut social, quoi. Quand t'étais autour d'un club, et que toi, t'étais le porte-disque du gars, t'étais un mec cool. Et la pochette de disque, alors moi, je reconnais que c'est ces pochettes de vinyle qui me reviennent spontanément à l'esprit. Je trouve que le CD, ça n'a jamais été vraiment cool, mais qu'est-ce que c'est funky, ces bières. Et c'est un peu plus pratique à transporter, franchement. Et tu passes, tu sais, pour le DJ, en tout cas que moi, j'ai connu quand j'avais 20 ans.
Quoi. À l'époque. Non, je pense qu'il y a un renouveau, en fait, dans les deux domaines. Parce que les vinyles, c'était quelque chose qui était mis au rebut, et plus personne ne voulait entendre parler. Mes parents ont mis à la Bonne Combine, pour pas la citer, qui est un petit magasin de réparation de électroménager et de d'IFI à Lausanne. Elle a donné ses platines vinyles là-bas, parce qu'on savait plus quoi en faire, parce que plus personne achetait des vinyles. Et puis c'est revenu, en fait, le vinyle. Et puis ils se sont rendu compte que c'était dommage de mettre ça au rebut, parce que la qualité de l'enregistrement sur vinyle était quand même différente, pas dire meilleure ou moins bonne, on va juste dire différente au niveau de la prise de son. Et puis en fait, c'est revenu à la mode. Il y a quand même des spécialistes du son qui disent que le vinyle, il n'y a rien qui vaut mieux que ça par rapport à la qualité du son. Donc dans la bière, on peut faire le parallèle, en fait. Et c'est intéressant, parce que au départ, les canettes, bah justement, c'est un peu comme les vinyles. On se dit, ouais, non, mais c'est de la bière pas chère, industrielle et pas terrible. Puis finalement, on voit que, bah, au niveau conditionnement, c'est peut-être un tout petit peu supérieur. Et puis, bah, y a le renouveau des canettes, comme le renouveau des vinyles qui vient. Et puis on voit que sur les vinyles, on peut imprimer des trucs tout en couleur, super joli, graphique design et tout. Et on peut faire la même chose sur les canettes. Mmh. Voilà. Donc c'est ça que ça m'a inspiré, ta citation, que je trouvais assez intéressante. La première fois que je l'ai lu, parce que je l'ai lu deux fois, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais il nous fait quoi, Warco? Parce que des pochettes de disques, mais qui c'est qui achète des disques? On écoute tous des MP3. Alors, la canette comparée à un MP3, franchement, ça le faisait pas. Mais j'ai creusé un petit peu plus et j'ai vu où tu voulais en venir.
T'as méchamment bûché, hein, dans une pile. Tu t'en es voulu, hein, les dernières citations. Waouh. Ouais. Wow. Bon, bah, la prochaine, c'est toi qui l'as dit, parce que t'en as déjà... Tu l'as tellement bien résumé là que franchement, je vais avoir l'air d'un blaireau si on fait ça les deux en même temps la prochaine fois, quoi.
Tu voulais ma citation du jour?
Ah bah si tu l'as.
Bah, mieux vaut une bonne canette bue dans un verre qu'une mauvaise bouteille bue au glo.
Puis si vous voulez celle de David Bonjour de Hopi People sur quel est le bon format entre 33 et 50, je vous laisse écouter le conciliabule, mais pas l'extrait. Celui que vous retrouvez sur Audiolab, donc il fait une quinzaine de minutes. J'étais mort de rire, quoi. C'est excellent.
C'est du teasing, ça.
Je veux pas spoiler et je trouve que c'est presque une règle de vie, quoi. J'en dis pas plus. Si ce n'est qu'on va se retrouver dans un mois environ, le sujet qu'on aimerait bien aborder, c'est la bière sans alcool. On verra si on aura même un invité qui a arrêté de boire de la bière et des boissons alcoolisées, et pour qui ça pourrait être une excellente alternative qui est de la bière artisanale sans alcool et qui soit de qualité. On verra d'ailleurs que c'est pas si évident de produire de la bière sans alcool, qu'elle soit artisanale ou pas, mais ce sera dans l'épisode dans un mois. Et puis bah, si vous êtes frustré, que vous voulez écouter des podcasts, boire des bières, savoir avec quoi vous pouvez mélanger ces bières hein, en termes de food, bah, vous pouvez écouter les précédents épisodes de Nipcraft également. Il y en a 9, hein, non même 10. Non, 10 avec celui-là.
C'est donc, le 10e, ouais.
Ouais, tout à fait. Donc, il y en a 9 autres que vous pouvez écouter. En fait, 10, parce qu'il y avait un épisode spécial. À chaque fois, je l'oublie. Si vous voulez poser une question à Raoul, il y a moyen de te contacter
Oui.
Ouais, alors, dis voir comment.
Oh, bah, le plus simple, c'est par Twitter ou Facebook.
C'est Raoul Gendreau.
Ouais, vous me faites un petit mail. Sinon, raoul@gendreau.ch.
Quel talent.
C'est aussi facile.
Il est transparent, ce mec, hein. Ouais. Je parle en termes de communication, ouais. Non,
mais je pense pas qu'on reçoive beaucoup de spam de tes auditeurs.
Non.
Et puis, ça nous fera plaisir de répondre, donc, voilà. Mon nom, c'est Raoul. Mon nom de famille, c'est Gendreau, donc raoul@gendreau.ch, parce qu'on est suisse. C'est facile à retenir.
Trop bien. Et moi, c'est Warco Brienza, donc, vous retournez le M. Pour faire un W, le W de Warco Brienza que vous retrouvez sur Twitter, vous le retrouvez sur Facebook également, c'est Marco Brienza sur LinkedIn. Je me réjouis également de vos questions ou de vos critiques, et puis bah, en attendant, je vous souhaite la bonne santé et on se retrouve dans un mois.
Et santé.
Bye bye.
Ciao.